Gilles Pidoux, Les Veuves. Le déménagement. On lui a dit qu'elle pourrait emporter quelques affaires, un ou deux meubles. Il y a si longtemps qu'elle est seule, et ses enfants, qui viennent la voir souvent, ne peuvent plus s'occuper d'elle. Et puis, maintenant, elle se sent elle-même trop vieille pour toutes les petites choses sans intérêt. Elle se néglige. Elle n'entend plus assez, malgré son appareil. Elle est malade. On ne lui a pas dit de quoi, mais elle sent que chaque jour, sa faiblesse, imperceptiblement, s'accentue. Là-bas, elle sera soignée. On pourra venir la trouver. Elle aura toujours des fleurs sur sa table de nuit, les repas qu'il lui faut, aux heures normales. On s'occupera de ses papiers, de ses médicaments, de ses distractions. Il faut partir. Elle a fini par accepter. On disait qu'elle était têtue, qu'elle n'accepterait jamais. On ne savait plus comment faire. Elle a dit « Oui. » Tout à coup. « Oui, je vais aller là-bas. Je pars. » Quel soulagement! Ses enfants, qui n'avaient jamais vécu dans l'appartement qu'elle occupait, n'y étaient pas attachés, comme elle. Bien sûr, l'environnement, les objets, leur étaient connus. Mais ils ne faisaient plus partie que de l'image lointaine de leurs jeunes années. Du père, il se souvenait comme d'un vieux monsieur. C'était comme s'il l'avait toujours été. Elle était présente quand même. Elle vivait, même amoindrie, même au ralenti. Elle exigeait de l'attention, des soins. Et puis, c'était la mère. Il avait bien fallu se résigner, et qu'elle se résigne à son tour. Elle quitterait tout. Elle irait là-bas où elle n'aurait jamais voulu aller, parce qu'il y a trop de vieux ensemble. Tout le monde pense ça, tout le monde a le frisson. Mais il faut bien finir par passer par là. On irait la trouver tant qu'on pourrait. Seulement, elle savait. Ils savaient tous que c'était trop loin pour s'y rendre autant qu'ils le voudraient, autant qu'ils le disaient. C'est pourquoi on évoquait ce séjour en évitant les difficultés dont chacun savait qu'elles allaient apparaître, en vantant les mérites de l'établissement et des soins qu'on y prodiguait. Personne n'aurait osé dire qu'on était content de se débarrasser, non pas tant d'elle que l'horreur, mais des soucis qu'elle causait depuis des années. On allait pouvoir souffler un peu, renouer des relations. Certes, moins tendu, mais on le pressentait aussi, de plus en plus estompé, malgré leur régularité. Cette plante mise en terre, confiée aux soins d'autres jardiniers, cette plante à bout de course, et dont on savait le déclin inévitable à la fin, peut-être proche, cette plante désormais choyée, transplantée dans le terrain qui lui conviendrait, on pourrait encore en récolter le fruit de quelques anecdotes, peut-être, de quelques lointains sourires. Car les plantes humaines gardent parfois le don de la parole jusqu'au dernier instant. Il fallait se résigner, et faire de cette résignation comme un jeu qui ne fût pas trop cruel. Il l'était d'autant plus qu'il cachait mal l'embarras de chacun, et le mensonge général. Aussi, au travers de grands silences, l'angoisse s'emparait-elle des cœurs, l'épouvante rampait-elle sur le parquet qu'un autre locataire déjà prévoyait de recouvrir, et le silence lui-même, devenu personnage, avait mal à l'âme. Il était entendu, ça n'avait pas été sans mal, que chacun, dès le lendemain, viendrait chercher ce qu'au nom du consensus général et de sa propre approbation, il avait obtenu d'emporter. Certaines choses, dont personne n'avait voulu, mais qu'elle ne désirait pas vendre ni donner ailleurs, seraient remisées, en douce, dans une cave ou un grenier, avant qu'on ne s'en débarrasse un jour, pas trop lointain, si possible. Ainsi, de quelques fauteuils décadents, d'un dressoir pachydermique, d'une table à rallonge impériale qui n'avait jamais été que le tiers d'elle-même, de lampadaires cryptogames et de toute une vaisselle timbrée de motifs nymphoïdes. Il y avait aussi des tableaux, mais pas ceux représentant des photos auxquelles elle tenait, des vases à fleurs, innombrables et chavirants, et la très vieille machine à coudre qui avait si longtemps servi à moudre tant de fils pour tant de vêtements que les enfants n'avaient jamais eu envie de porter. De la cave, envahie de momies mécaniques inventées par le père, on retira aussi des confitures dont beaucoup étaient gâtées. On ne compta pas non plus les bidons impossibles à ouvrir et les cornets, sachets et emballages divers contenant des poudres ou des substances indéfinissables. Il y eut bien sûr quelques surprises, telles cette lanterne magique, prestement remise en état de marche, et par l'œil lumineux de laquelle on put projeter toute une série de clichés de verre naïfs et parfois dépareillés, allant du suspense imagé du chaperon rouge, du loup et de la grand-mère, à l'exposition méticuleuse et soignée des maladies de la peau, hématomes et boutons, peuplant le visage de primates dont la ressemblance humaine n'était pas toujours assurée. À part cela, de véritables trésors, aucun. Ni singulier, et surtout pas pluriel. Une vieille montre, peut-être, à couvercle ciselé, qui renfermait une scène mécanique trop érotique pour qu'on la montrât aux enfants, et que personne n'osa courageusement revendiquer. C'est pourquoi elle resta là, et fut empochée par un déménageur curieux, et depuis, collectionneur des prestations combinées de l'horlogerie et des ressorts humains. La mère, durant tout le temps que dura la prise en charge de son passé, s'était assise dans son fauteuil. Le seul fauteuil qu'elle emporterait avec elle. Un fauteuil au tissu démaillé par les chats. Un monument à oreillettes, le tombeau de l'infirmité prisonnière. Le refuge du temps anémié. Ayant l'œil sur tout, on devrait dire les yeux, car ils retrouvèrent tous deux une acuité indiscutable, qu'ils ne pourraient jamais sans doute plus connaître par la suite. Ce démembrement cruel dura un siècle, à savoir une journée presque entière, comme toutes les choses qui, finissant, semblent durer plus qu'elles-mêmes. C'était à chaque fois un morceau du passé qui la faisait gémir, qu'elle voulait contempler encore, toucher, palper de ses doigts, réduit déjà à l'anatomie des squelettes. On interrompit plusieurs fois la manœuvre, on replaça plusieurs fois les objets à leur place, on décida même, lors d'un conseil restreint siégeant à la cuisine, de l'emmener tout de suite, de la soustraire à la curée de son histoire. Elle refusa avec tant de cris qu'on fut forcé de la laisser assister au fatal déclin de son empire. Alors, elle se calma. Elle cessa de gémir. Mais ses yeux gémissaient pour sa bouche, ses poumons, son cœur, son corps tout entier. C'était une agonie sans perte de conscience. Au contraire, il lui semblait que sa conscience s'était ramifiée, était devenue comme les racines et les branches d'un arbre, qu'elle plongeait ses tentacules tout à la fois dans l'humus nocturne du passé et dans la lumière diurne d'à présent peuplée d'oiseaux de proie, de charognards, de dépeceurs aux serres caricaturales. Elle eut envie de rire, même un instant, de cette valse, de cette danse de mort, d'où la mort était encore absente. Elle rit. On se mit à rire avec elle, un peu, sans trop savoir pourquoi. Plus son monde se dépeuplait, plus il semblait qu'elle se prostrât davantage, qu'elle se murât dans sa défaite. Elle fit remonter la grosse horloge. Le morbier, dont les engrenages, les ressorts et les poids dansaient avec un bruit méchant et révolté dans la caisse peinte. Les porteurs de l'engin maugréèrent, se trouvant déjà sur le palier de l'étage précédent. Puis, cédant à l'insistance de la fille aînée, remirent la pièce à sa place immuable. Et, que sur l'ordre impérieux de la vieille, on se mit en devoir de remonter. Alors, le tic-tac se fit à nouveau entendre, dans les trous du silence, entre les grognements des déménageurs, les bruits de meubles arrachés à leur terreau et les soupirs des assistants désemparés. Bientôt, les affaires que la veuve allait emporter dans son ultime nouveau monde formèrent un îlot dans la pièce attenante, couronné comme d'un fanal de détresse du portrait du défunt, mari et père, doublement voués à l'exil. Il y avait là une petite commode un peu ventrue, dont il n'était guère possible de jurer que la marqueterie fût de prix. L'iris d'un lampadaire couronné d'un abat-jour brodé de fils de laiton et dont l'aplomb laissait à désirer. Outre quelques caisses, quelques valises et une étagère, un énorme escargot de porcelaine, écrasé sous le poids de plantes grasses, semblait vouloir gravir la dérisoire colline sur laquelle il avait, bien malgré lui, trouvé refuge. La masse de cet animal inerte, déjà volumineuse, avait paru grossir encore, grandir encore, et s'étaler sous les yeux des assistants dans la pénombre qui salissait davantage les tapisseries, où se révélaient les fantômes de tous les tableaux, de tous les objets accrochés il y a peu de temps, à ces lambeaux de peau flétrie. L'impression que produisait le monstrueux gastéropode était telle que l'aîné, exauçant les pensées de tous, s'empressa de fermer la porte. On l'avait posé, à même le sol, augmentant l'impression de veillée funèbre, un bougeoir à quatre branches, que la vieille voulait garder avec elle, parce que c'était un cadeau de mariage, et qu'elle exigea qu'on allumât. Dès que ce fut fait, elle déclara d'un ton sans réplique qu'elle ne partirait pas, qu'elle attendrait la mort, ici, pas ailleurs. La stupeur qui suivit se manifesta tout d'abord par un profond silence, dont le seul condiment sonore, la seule épice ironique, provenait du grand cercueil armorié du morbier récupéré. Puis il y eut brouhaha, collision de mots, gerbe d'exclamations. Les deux filles et le mari de l'une d'elles, le fils et sa femme, ainsi qu'un oncle déjà remisé dans la contemplation, voyant leur effort ruiné, s'unirent et se désunirent tout à la fois, en une danse étrange, empruntée à quelque tribu mystérieuse, ou un peuple de singes gagné par une obscure hystérie. La vieille n'en démordait pas. Elle se cramponnait à ses paroles et à son siège. On parlementa. On argumenta, on colloqua, on se fendit de remarques bienveillantes et hargneuses. On joua de la détresse et de la tendresse. On supplia, on se mit à genoux, on se pencha sur elle, on lui coupa l'air, on le lui rendit. On l'empoigna par toutes les poignées de chair encore possibles. On se mit à crier plus fort qu'on ne le pensait. Il y eut une accalmie. Ce fut à la cuisine, à nouveau, qu'on délibéra à voix basse, à part la femme du fils restée près d'elle et qui la mouchait comme une enfant. Elle fit remarquer à la vieille, avec douceur, qu'il n'était pas raisonnable qu'elle revienne sur sa décision et qu'elle reste là, qu'elle n'avait plus de lit pour dormir, que les déménageurs étaient partis.
« Je dormirai dans ce fauteuil. J'ai l'habitude. Demain, vous me rendrez mon lit. »
Que faire ? Les occupants de la cuisine décidèrent très vite qu'il ne fallait pas la brusquer, qu'il fallait attendre qu'elle s'endorme pour lui faire une piqûre et l'emmener là-bas.
Le médecin de famille ne s'y opposerait pas.
C'était la meilleure solution. La famille se retira donc et se rendit à la brasserie la plus proche, où le fils devait leur téléphoner dès qu'elle dormirait. Ce fut lui, le fils, qui s'endormit le premier, assis face à elle, contre le mur, l'hypnotique flamme des bougies l'aidant à franchir les obstacles que cette veillée dressait devant lui. Elle n'avait plus rien dit. Elle ne bougeait plus. Elle le regardait, et elle pensait « Mon pauvre garçon, si au moins c'était ta femme qui te fatiguait au lieu de ce travail absurde que tu fais. Tu ressembles à ton père, tu veux tellement le bien et le bonheur des autres que tu ne leur apportes que des soucis supplémentaires. Dors et laisse-moi partir où je veux. » C'est alors qu'elle franchit le seuil du vrai départ.